السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب فضل الذكر، أي من الأحاديث النبوية. لتا رحمه الله تعالى نجدي لشابيت du mérite de l'évocation, c'est-à-dire tiré de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine passée, bihamdillahi azza wa jal, nous avons lu les versets coraniques traitant de ce sujet. Après avoir cité certains versets traitant de l'importance de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que de son mérite, l'auteur nous cite ici plusieurs récits prophétiques traitant du même sujet. Qala rahimahullah ta'ala, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، قال الإمام الألباني وهو صحيح. Chapitre, le mérite de l'évocation. Abu Darda, radiallahu anhu, rapporte: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda: ne vous indiquerai-je pas la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre souverain, celle qui vous élève au plus haut degré, qui est meilleure pour vous que de dépenser en aumône l'or et l'argent, et meilleure pour vous que de rencontrer l'ennemi, de le taper au cou ou qu'il vous tape au cou? On répondit: certainement, au messager d'Allah. Il reprit l'évocation d'Allah. Zikrullah. هذا الحديث في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الذكر وأهميته وفضله على الأعمال العظيمة كالصدقة والجهاد في سبيل الله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous montre la grande place de cette adoration dans la religion d'Allah azza wa jal. Il nous dit: ala وألا أداة التنبيه، ألا أخبركم بخير، بأخير، يعني لا أفضل من هذا العمل الذي سأعلمكم إياه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention des compagnons, puis leur pose une question afin qu'ils soient tout suite: ne vais-je pas vous indiquer la meilleure de vos œuvres? Bi khayri a'malikum. Ne vais-je pas vous indiquer la meilleure de vos œuvres? Les actions, toutes les actions, les bonnes actions, les adorations sont aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais sachez qu'il y a des actions qui sont meilleures que d'autres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère certaines plus que d'autres. فالأعمال تتفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل أسلوب التشويق مشوقا للقلوب. Le prophète صلى الله عليه وسلم, vous remarquerez dans ce hadith qu'il n'a pas donné directement l'information. Il n'a pas donné directement l'information. Mais il a d'abord posé une question. Puis a comparé la réponse à de nombreuses actions, toutes plus grandes les unes que les autres. Ne vous indiquerai-je pas la meilleure de vos œuvres, Azkaha, la plus pure, Inda Malikikum, auprès de votre roi, auprès de votre souverain, Azkaha, Azzaka, Huannama, إذن أرفع أو أكثرها بركة أو أطهرها. Donc soit la plus pure, car la zaka vient de nama, l'augmentation ou de la pureté. Donc on peut traduire, expliquer en disant la plus pure auprès de votre souverain. Donc on peut, tout comme nous pouvons traduire en disant celle qui sera la plus riche en bénédiction, celle qui vous rapportera le plus de bénédiction, wa arfa'iha fi darajatikum, celle qui vous élève au plus haut degré. Les actions, les adorations élèvent le serviteur en degré. Et tout comme elle l'élève dans ce bas monde, elle l'élève également dans l'au-delà. وَالْرِفْعَةِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَذَلِكَ تَتَفَاضَلَ. Et cette élévation est relative à chacun et selon les actions du serviteur. وأعظم هذه العبادات التي ترفع العبد درجة عند الله ذكر الله. Et l'action qui élève le plus en degré le serviteur auprès d'Allah تبارك وتعالى est l'évocation d'Allah. ولكل درجات مما عملوا. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit qui est meilleur pour vous que de dépenser en aumône l'or et l'argent. Al-Zahab ma'arouf, wal-warif, wal-fidwa. Meilleur que de dépenser en aumône. Et tout le monde connaît le mérite de sadaqa. Ben ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner une adoration qui est meilleure et qui élève plus chez Allah azza wa jal que de dépenser de son or et de son argent. Donc sans aucun doute, c'est une action qui a la plus grande place dans notre religion, la plus grande importance et la plus grande bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Yadribu a'naqakum aytustashhadu » Donc que la personne décède au combat ou qu'il batte l'ennemi. Meilleur que tout cela, on répondit certainement au message d'Allah. Après cette grande introduction, après cette forme interrogative, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond Zikrullah, le rappel d'Allah. L'évocation d'Allah est meilleure que tout ce que nous venons de citer dans ce hadith azim. ولا يعني هذا الحديث المبارك التقليل من شأن هذه العبادات الجليلة وإنما المقام هذا جاء في فضل الذكر فناسب هذا الكلام. À ne pas comprendre de ce hadith le fait de minimiser les adorations citées ici. Comme l'aumône, Tout cela est très méritoire. Mais le contexte ici est de vanter le mérite du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et de montrer la grande place de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les autres adorations. Donc l'auteur a commencé ce chapitre par ce hadith qui nous montre l'importance du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa grande place. في الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les rescapés ont gagné. On demanda qui sont les rescapés au messager d'Allah. Il répondit, ceux et celles qui évoquent souvent Allah. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع إلى مكة في الطريق مر بجبل يقال له همدان فقال سيروا هذا همدان أو جمدان نعم سيروا هذا جمدان سبق المفردون فقال الصحابة وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Ce hadith a été cité dans un contexte particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en chemin avec les compagnons. Ils sont alors passés près d'une montagne qui se nomme Jumdan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit allez-y, voici Jumdan, en montrant donc la montagne. Puis il a dit Sabaq al-Mufarridou. Al-Mufarridou ont pris les devants. Al-Mufarridou vous ont dépassé. Alors les compagnons ont dit qui sont-ils au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répond Al-Zakirun Allah kathira. Ceux et celles qui évoquent souvent Allah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, nous montre que ceux qui prennent les devants, ceux qui arrivent les premiers dans cette course vers Allah tabaraka wa ta'ala et son agrément sont ceux qui font le plus de dhikr, qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière abondante. فَأَهْلُ السَّبْقِ هُمُ الذَّاكِرُونَ هُمُ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Donc ceux qui devancent les autres, ceux qui dépassent les autres dans leur place chez Allah tabaraka wa ta'ala dans les adorations, dans l'obéissance d'Allah azza wa jal, sont ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala de manière abondante. Et remarquez ici que les compagnons ont écouté très attentivement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont été très réactifs. Wa fi hadha hirsu as-sahaba ala ta'allum al-khayr والاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم. Les compagnons ont été très attentifs et ont été très réactifs lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a cité ce hadith et ont dit qui sont-ils au messager d'Allah? Qui sont-ils? Ça nous montre qu'ils étaient les gens les plus motivés quant à l'obtention du bien et des plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup se concurrencent dans la dunya. Beaucoup se concurrencent dans l'acquisition des biens. Mais où sont ceux qui se concurrencent dans la place fil jannah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens pieux ou iddat lil muttaqin? Qui sont ceux qui entrent dans le verset wastabiqul khayrat? Où sont ceux qui rentrent dans le verset wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à accourir vers lui, à nous sauver de lui vers lui. Fafirru ilallah. Quant à la dunya, aux choses ayant attrait à ce bas monde, il y a une part qui est licite, une part qui est illicite, qui est illicite. Quant à la partie qui est licite, tu seras questionné dessus. Même la partie qui est licite, tu seras questionné dessus. Comment est-ce que tu as acquis ces biens? Qu'est-ce que tu en as fait? Comment est-ce que tu as acquis ces biens? Qu'est-ce que tu en as fait? Et dans quoi est-ce que tu as dépensé cela? Personne n'échappera à cela sur la place du jugement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a cité dans un hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si il nous a représenté le chemin que nous empruntons dans ce bas monde comme une course, comme un endroit où les gens se concurrencent. La finalité, c'est l'agrément d'Allah. Le but, c'est la plus grande place chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a toujours un premier, et il y a un dernier, et il y a entre les deux déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. Qui sont ceux qui devancent les autres? Qui sont ceux qui ont la meilleure place? أَذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ceux et celles qui évoquent Allah d'une manière abondante. في هذا الحديث كذلك فضيلة الذكر وأن أهل الذكر هم أهل السبق. De ce hadith on tire le mérite de l'évocation d'Allah Azza wa Jal, et que ses adeptes, ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal d'une manière abondante, sont ceux qui devancent les autres. الحديث الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عبد الله ابن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به أي أتمسك أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. Abdullah ibn Busr mentionne qu'un homme demanda au messager d'Allah: les prescriptions de la foi sont très nombreuses pour moi, informe-moi donc d'une chose à laquelle je m'attacherai. Il répondit: que ta langue ne cesse d'évoquer Allah le Très-Haut. Que ta langue ne cesse d'être humide de par l'évocation d'Allah. Rawahu Tirmidhi. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yas'aluhu fi amrin yata'allaqu bi dinihi. وفي هذا الرجوع إلى أهل العلم للسؤال. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur des choses de sa religion, sur des causes qui vont lui permettre de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'éviter et de ne pas entrer dans sa menace ou dans son châtiment. Et de cela, on voit que les compagnons étaient les gens les plus pieux et ceux qui recherchaient le plus l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme on tire de ce hadith le fait de revenir vers les gens de science pour les questionner. Tu ne questionnes pas n'importe qui. Pas plus tard que après Salat al-Dhahr, j'ai croisé une personne devant le masjid qui m'a dit qu'un homme est venu poser une question à un fidèle sur al-riba, ce grave péché qu'est l'usure. Il a dit qu'il voulait acheter une maison, il a détaillé sa question. Et l'homme lui a dit, oui, tu peux, c'est bon. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. Hadha qawlullah wa hadha ar-rajul yaqul la ba's. Subhanallah. Subhanallah. Wa la taqufu ma laysa laka bihi 'ilm. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم سبحان الله التقول على الله بغير علم أعظم الذنوب الله عز وجل من قاد القرآن من قل فد فعلي صنصير. Et il nous dit, voilà ta profouaïla, ta tabia, ne suis pas ce dont tu n'as pas science. Et cet homme dit, tu peux prendre un crédit avec intérêt ainsi, pour acheter une maison. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit, attendez-vous à recevoir la guerre de la part d'Allah et de son message. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne vais-je pas vous informer des pires péchés? Il a cité Shirk al-Qatl et nous dit Al-Riba, l'usure. Il nous dit l'usure. Subhanallah. Al-Shahid, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Car cette personne a questionné une personne qui n'a pas étudié. Il a questionné une personne qui n'a pas étudié. Et lui a répondu Bi-Ghayri Ilm. Il a répondu sans science. Il a répondu sans science. Wa Shay'u bi Shay'i Yudhkar. Il y a deux personnes qui ont fait une vidéo sur la musique qui vise à égarer la jeunesse musulmane. Ils rendent permis ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu haram dans le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu haram dans le Sunnah. Puis ils dénigrent et critiquent ceux qui vont à l'encontre de leurs paroles, qui pourtant est en conformité avec les textes, qui pourtant est en conformité avec les textes. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La cause de cela est le fait de revenir aux gens qui n'ont pas de science du Coran et de la Sunna. Je ne parle pas de hifz, de mémorisation, je parle de science. Cette même personne qui ne respecte pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plus forte raison les ulama, est questionné sur le fait de féliciter les associateurs lors de fêtes païennes ou autres. Naam, a'yad al-mushrikin. Et il répond, il n'y a aucun problème. En sommes-nous encore à ce niveau-là? Tous les ans on va se poser cette question, mais il n'y a aucun mal. Subhanallah. Subhanallah. Hadha ghalatun 'azim jiddan. C'est une faute monumentale. Et une grande imperfection dans l'aqida, dans la chose la plus importante, dans la croyance. Dans la croyance. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Et celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, le minimum qu'on puisse tirer de ce hadith, c'est que c'est un grand péché. Sinon, zahir al-hadith, c'est quoi? C'est le kufr. Et la personne minimise cela. Wa bihadhi al-munasaba. Ashtaki min amri qad kathur. Wa hadhartukum min hadha. وهو كثرة الأسئلة ولست أهلا لذلك في معظم المسائل ومنكم من يجيد اللغة العربية فواجبه أن يرجع إلى أهل العلم العلماء، أعني بهم علماء أهل السنة. Et par la même occasion, j'en profite pour citer une chose que j'ai déjà citée, mais ça commence à prendre des proportions et nous ne sommes pas à l'abri d'un mal. C'est qu'il y avait quelques questions pertinentes sur le cours au début, puis cette limite a été dépassée des questions en dehors du cours, puis de nombreuses questions. Et de plus en plus à chaque cours. Et de plus en plus à chaque cours. On ne veut pas ouvrir cette porte. On ne veut pas ouvrir cette porte. Certains posent même des questions sur être là, sur être dima, et ainsi de suite. Des questions qui ont rapport avec la vie des gens, ni des histoires qui reviennent au tribunal, ou bien les divorces, et ainsi de suite. Donc ce qui est demandé aux frères, c'est de donner à chacun sa place. C'est de donner à chacun sa place. Les ulama ont leur place. Les prêcheurs ont leur place. Les personnes âgées ont leur place. Les gens du commun, les gens du commun, parmi les musulmans, ont leur place. فَأَعْطُوا كُلِّ ذِي حَقٍ حَقٍ نعم. Et on craint pour nous, si on ne ferme pas cette porte, ce qui a touché d'autres personnes, qui sont arrivées jusqu'au niveau de se filmer et faire des fatawas en direct, où tu y trouves des fautes, où tu y trouves des fautes. Naam. Donc on demande aux gens de craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans cela. Certes, si tu ne connais pas une chose, tu demandes à celui que tu penses, yani qu'il sait. Mais ça n'est pas toute question qui se pose, et ça n'est pas toute personne que tu peux poser n'importe quelle question. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas mentionne qu'un homme demanda au messager d'Allah, les prescriptions de la foi m'ont submergé. Shara'i' al-iman, kas-salah, waz-zakah, waz-zikr. Donc les préceptes de la foi, les actions du iman, comme la prière, comme la zakat, comme le jeûne, comme le fait de recommander le bien, de blâmer le mal, et ainsi de suite, les adorations. Donc il y a beaucoup d'adorations. Cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses actions sont très nombreuses. Donc il lui a demandé une chose à laquelle il pourra s'accrocher. Une chose à laquelle il pourra s'accrocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité al-dhikr. Il lui a dit que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah. لا يفهم من هذا الحديث ومن طلب السائل أنه يريد أن يترك الواجبات ويكتفي بعمل واحد وهنا ذكر هذا الفهم بعيد جدا وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما يسهل له بعد ذلك القيام بالواجبات وترك المنكرات نعم فبذكر الله تطمئن القلوب وبذكر الله يزداد الإيمان ويقوى ويزداد محبة الله سبحانه وتعالى وهكذا فيصير العبد أقوى والعبادة إليه أحب وأسهل وألين وما إلى ذلك كما بين ذلك الشارح عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. Donc il ne faut surtout pas comprendre du hadith que cet homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une action pour délaisser les autres. les obligations, il faut se permettre les interdits. Non, cela n'est pas du tout le sens du hadith. Mais il a demandé une action en la mettant en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala lui rendra plus facile les autres actions. Il a demandé la cause qui lui permettra la mise en pratique des autres actes d'adoration. Donc ici, le mérite de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala est « Anna zikrallah yukhaffifu al-a'mal » Donc, on tire de ce hadith que l'évocation d'Allah allège la lourdeur que peut contenir la mise en pratique d'une adoration. Même si c'est le plaisir de ceux qui ont connu la réalité de la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, il peut y avoir une certaine lourdeur. Le serviteur qui est distrait de l'évocation d'Allah et insouciant du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala trouve très lourd les obligations. Lorsque tu lui dis Allah a dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, il te voit tel un ennemi qui vient à l'encontre de ses passions. Pourquoi? Car pour lui, c'est telle une montagne qu'il supporte. Na'am. Alors que le serviteur qui a connu Allah tabaraka wa ta'ala trouvera son jardin dans l'évocation d'Allah, trouvera son repos dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses meilleurs moments passés seront dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces moments de plaisir intenses ne sont pas comparables avec les meilleurs moments ayant rapport avec ce bas monde, avec Ad-Dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qui l'évoque de manière abondante d'entrer dans un paradis dans ce bas monde avant d'être honoré et gratifié par le fait d'entrer dans le paradis de l'au-delà. C'est pour cela que certains parmi les anciens disaient « Man lam yadkhuli jannata dunya lam yadkhul jannata al-akhirah » فقيل له وما جنة الدنيا قال ذكر الله قال معرفة الله قال معرفة الله. Certains parmi les anciens disaient, celui qui ne rentre pas dans les jardins du paradis de ce bas monde n'entrera pas dans le jardin du paradis des paradis dans le paradis de l'au-delà. Et lorsqu'il fut questionné sur ce paradis, et il a dit, c'est la connaissance d'Allah ou les assises de science. La personne qui accomplit la prière ou qui est débutante dans la prière peut trouver une certaine lourdeur. Mais en évoquant Allah tabaraka wa ta'ala quotidiennement, le matin, en fin d'après-midi, au coucher, au réveil, et ainsi de suite. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, par la suite, fait en sorte que cette prière devienne la prunelle des yeux de ce serviteur qui auparavant l'a trouvée lourde. Lorsque tu l'appelais à la mosquée, lorsque tu l'appelais à la prière, il se sauvait de toi. Au final, tu viens à la mosquée et tu le trouves avant toi. Et lorsque tu sors de la mosquée, tu le laisses derrière toi. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a allégé pour lui cette adoration de par l'abondance qu'il a fait, de par l'abondance qu'il a pu mettre dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et son évocation. Et chaque personne sincère trouve cela en sortant d'une assise de science. Il entre dans le masjid avec de nombreux soucis. Il entre dans le masjid le cœur rempli de problèmes, la tête préoccupée par telle chose et telle chose et telle chose.
par la pauvreté, par la maladie, par telle chose ou telle autre. En sortant de cette assise, c'est comme s'il n'avait jamais connu ses problèmes. Puis lorsqu'il s'éloigne un peu dans la dunya, ses problèmes reviennent. Et par la suite, lorsqu'il retrouve cette assise, à nouveau, il s'appelle par l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ذِكْرُ اللَّهِ يُسَهِّلُ لَكَ الْقِيَامِ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ. Donc l'évocation d'Allah Azza wa Jal te facilite la mise en pratique des ordres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَفِي قَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَتْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِشَارَةً إِلَى الْيُونَةِ وَالْتَيْسِيرِ. فذكر الله يزيل قسوة القلوب. ذكر الله يزيل قسوة القلوب. Le rappel d'Allah Azza wa Jal et son évocation fait disparaître la dureté qui habite les cœurs, celle qui fait que tu deviens insensible au rappel. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fa inna ab'ada al-qulub 'anillah al-qulub al-qasiya. جاء رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى فقال له قسى قلبي شكى إلي قسوة قلبي فقال له الحسن ألنه بذكر الله. Un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri رحمه الله تعالى et s'est plaint à lui, à ce grand imam, ce grand savant, personne très pieuse parmi التابعين, et lui a dit, il s'est plaint à lui de la dureté qu'il trouvait dans son cœur. Naam, la dureté qu'il trouvait dans son cœur. Et lorsque le cœur est dur, tu as du mal à te délecter dans l'adoration. Al-Hassan al-Basri lui a répondu tout simplement, adoucis-le avec l'évocation d'Allah. Adoucis-le avec l'évocation d'Allah. Donc dès que tu trouveras à l'avenir une adoration qui a une certaine lourdeur sur toi, ou que ton cœur s'endurcit, ou que tu te trouveras quelque peu insensible au texte ou au rappel, adoucis tout cela par l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bidhikrillah inshirahul qulub wa tuma'nina fin nafs. Nastafidu min hadha al-hadith fa'idatan 'azima wa raddan 'ala al-murji'ah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذا الرجل إن شرائع الإيمان قد كثرت فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل إلى ذكر الله. ففي هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بالقلب يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. La foi, selon le Coran et la Sunna, la foi, عند أهل السنة, c'est une parole avec la langue, des actions avec les mains, une croyance avec le cœur. Elle augmente de par l'obéissance vouée au tout miséricordieux, et diminue par sa désobéissance, et diminue lorsqu'on lui désobéit et qu'on obéit au shaytan. Donc on voit ici que les actions sont partie intégrante de la foi. La foi n'est pas une simple parole, ou des actions sans parole, ou une croyance sans action. Non, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite le quatrième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abi Musa al-Ash'ari, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي أو مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne le fait pas est semblable à celle du vivant et du mort. L'image de celui qui évoque son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, de celui qui n'évoque pas son Seigneur est semblable à l'image qui oppose celui qui est vivant à celui qui est mort. Celui qui évoque son Seigneur est vivant. Et celui qui n'évoque pas son Seigneur, c'est le mort, par excellence. Dans une autre version, Mathalul Bayt, Alladhi la yuzkaru fihi Allah. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple de la maison dans laquelle Allah n'est pas évoqué, et l'exemple de la maison dans laquelle il n'y est pas évoqué, est semblable au vivant et au mort. Ça, c'est une autre version du hadith. Fi hadha al-hadith, fadlu al-zikr. Wa anna alladhi yadhkur rabb al-alamin yuhyi Allah qalbahu hayatan haqiqiyya. De ce hadith, on tire comme mérite de l'évocation d'Allah Azza wa Jal la vie véritable. Celui qui évoque Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui donnera la vie, la vraie vie. On n'entend pas par cela le fait de marcher, de boire, de dormir, de se lever, de se marier. Non. Cette vie-là s'associe dans cette vie-là l'homme et les animaux. Mais il y a une vie qui est accordé qu'à ceux qu'Allah Azza wa Jal a choisi. La vie du cœur qui se répercute sur la personne, sur sa langue, sur sa vie, sur son quotidien, dans l'aisance, dans la difficulté, chez lui, à la mosquée, en voyage, où qu'il soit. Cette vie est donnée à celui qui évoque Allah tabaraka wa ta'ala de manière abondant. Fabidikilillah hayatul qulub. Lianna dhikr yatrudu al-ghaflata anil qalb. Pourquoi cela? Comment cela? Car l'évocation d'Allah Azza wa Jal dissipe l'insouciance qui habite le cœur du serviteur. Cette insouciance est un rempart, un voile entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Donc entre toi et le bonheur, entre toi et la vraie vie. Avec l'évocation d'Allah Azza wa Jal, tu vas ôter ce voile, ce rempart, cette insouciance, cette noirceur qui a terni ce cœur. Yaqulu al-mu'allif fi kalamin lah rahimahullah ta'ala: مثل حاجة القلب إلى ذكر الله مثل أو مثل حاجة السمك إلى الماء. ابن تيمية رحمه الله تعالى ندي le besoin car le cœur du serviteur devant l'évocation d'Allah est semblable au besoin qu'a le poisson de l'eau. Subhanallah. Le besoin que tu as d'évoquer Allah Azza wa Jal est semblable au besoin que tu as, au besoin qu'a le poisson de l'eau. Sors le poisson de l'eau et regarde dans quel état il se retrouve. Non. Ben lorsque tu t'éloignes de dhikrullah, tu es dans le même état, si ce n'est pire. Car le plus Ou le pire qui puisse arriver à ce poisson, si on ne le remet pas dans l'eau, c'est quoi? La mort. Na'am. Wa al-maut la budda min. Man lam yamut bis-sayf mata bighayrihi. Na'am. Ta'addadat al-asbab wa al-maut wahid. Donc le pire qui puisse arriver au poisson, c'est la mort. Par contre, toi, en t'éloignant de l'évocation d'Allah Azza wa Jal, il t'arrive une musiba qui est pire. Une musiba qui est pire, car la personne qui décède, قد تستريح من الدنيا وأعبائها نعم وينعم في قبره وتبدأ سعادته الحقيقية وتزبل تزداد إلى أن يدخل جنة رب العالمين أما الذي حال بينه وبين ذكر الله شيء هذا قد ابتعد عن الله وهذا عذاب أليم قد ضيع وقته وهذا أشد. Quant à celui qui s'éloigne de l'évocation d'Allah, il sera torturé par le fait d'être éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il sera rétribué par la perte du temps. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ou un autre parmi les savants a dit: de perdre son temps est pire que de perdre la vie. De perdre son temps est pire que de perdre la vie. Car lorsque tu perds ton temps, tu t'éloignes d'Allah. Tu n'es pas en relation avec Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est la pire des choses. وَبِمَجْمُعِ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: نأخذ أن الذاكرين في بيوتهم مثل الأحياء في بيوتهم. أناس يتحركون، يتكلمون، يأكلون وهلون، في حركة، في حياة، مثل البيت الذي يذكر الله فيه. Donc en associant ces deux versions du hadith, donc l'exemple de la maison dans laquelle on invoque Allah Azza wa Jal, et dans l'autre hadith, l'exemple de celui qui évoque Allah, ces deux catégories sont comparées à la maison dans laquelle on n'évoque pas Allah, et dans l'autre hadith, au serviteur qui n'évoque pas son Seigneur. En unissant ces deux versions, on tire que l'exemple, ou bien plutôt ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, sont comme des êtres vivants, comme des gens qui sont en vie dans leur foyer. Donc tu entres dans cette maison, il y a de la vie. Des gens qui parlent, des gens qui se déplacent, des gens qui communiquent, il y a de la vie. D'accord ? Alors que celui qui n'évoque pas Allah, c'est semblable à une maison dans laquelle tu entres, personne n'est vivant. Quel est l'endroit où personne n'est vivant? Le cimetière. Le cimetière. Donc, quelle grande différence y a-t-il entre un endroit qui est une maison dans laquelle il y a des gens, qui bougent, qui parlent, il y a de la vie, et le cimetière, où tu y entres, il n'y a pas de vie. Les gens ne parlent pas. Les gens ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent plus communiquer. Ben celui qui évoque Allah Azza wa Jal est semblable à la première catégorie. Celui qui ne l'évoque pas est semblable à la deuxième catégorie. Semblable à des gens qui sont au cimetière, qui sont morts, qui ne peuvent plus communiquer, qui ne peuvent plus bouger. Donc en réalité, cette triste réalité, c'est quoi? C'est que celui qui évoque Allah Azza wa Jal est vivant. Mais celui qui n'évoque pas Allah, qalbuhu madfoulun fi jismi, fi sadri. Celui qui n'évoque pas Allah, son cœur a été enterré dans son corps, dans sa poitrine. Sa poitrine sert de tombe pour son cœur. Cette personne est morte, même si tu la vois marcher, même si tu la vois rire, sache que son cœur est mort, et son corps n'est là qu'en guise de tombe, de tombeau. Et il s'en faut de peu pour que les deux y soient enterrés dans un vrai cimetière. Donc, ne sois pas mort, tout comme tu fuis la mort. Ne sois pas mort tout en étant vivant. Recherche la vie de par les vocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, on tire de ce hadith, après avoir cité que parmi les mérites de l'évocation d'Allah Azza wa Jal, il y a la vie, la vraie vie, on tire de ce hadith que le cimetière n'est pas un endroit fait pour l'adoration. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici s'adresse aux compagnons. Il leur parle selon ce qu'ils connaissent. Donc c'était une chose connue de tous que le cimetière n'est pas fait pour la lecture du Coran, n'est pas fait pour le zikr, n'est pas fait pour la prière et ainsi de suite. Car il compare celui qui fait du zikr à celui qui ne fait pas du zikr. Donc le cimetière n'est pas fait pour cela, contrairement à ce que font beaucoup d'ignorants, ceux qui copient probablement des gens qui se sont égarés. Ils vont au cimetière et lisent le Coran, et peut-être qu'ils ne récitent jamais le Coran si ce n'est au cimetière. Certains lors de dessert récitent quelle sourate? Sourate Yassine. Alors que dans sourate Yassine, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, afin d'avertir le celui qui est vivant. Subhanallah. Dans sourate Yassine, ça te montre qu'il lise le Coran sans le méditer. Il nous dira man kana hayya. Na'am. Et eux lisent tout particulièrement cette sourate au cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Les sahaba n'ont pas fait cela. Abu Bakr n'a pas fait cela. Omar n'a pas fait cela. Othman non plus. Ali non plus. Na'am. Mais c'est une chose qui a été innovée. Pire que cela, certains ont construit sur les tombes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et lui a dit « La tada'an nas amada suratan illa tamassaha wa la qabran mushrifan illa sawaitaha » Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et lui a dit « Ne laisse pas une tombe surélevée sans la planir. » Sans la planir. Tu trouves des gens qui élèvent les tombeaux, qui décorent les tombeaux, qui viennent adorer Allah Azza wa Jal auprès du tombeau, et qui ont fait de ces tombeaux, de ces cimetières, des endroits, des lieux de culte. Pire encore que cela, ils invoquent les morts, leur demande en dehors d'Allah Azza wa Jal. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَذَّرَ مِنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِقَلِيلٍ بَلْ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ عليه الصلاة والسلام حذر من اتخاذ القبور مساجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement mis en garde contre le fait d'exagérer à l'égard des tombes, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans l'élévation, que ce soit dans le fait d'y adorer Allah sincèrement. Subhanallah. Que dire alors de ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal maintenant? Et dans son dernier prêche qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait plus de force, il a demandé aux compagnons de l'aider. Il voulait sortir, mais il ne trouvait plus la force. Il s'évanouissait. Puis, il cherchait à nouveau. Il puisait dans ses forces pour sortir, trouver ses bien-aimés, les compagnons, pour leur faire des recommandations. Et il ne trouvait pas assez de force. Par la suite, lorsqu'il a réussi, après avoir ordonné à ses épouses de lui verser cette outre d'eau, il s'est levé, aidé par ses compagnons. Il s'est dirigé à la mosquée, s'est assis sur le minbar. Hamid Allah Azza wa Jal wa Athna alayh. Puis, il a informé ses compagnons qu'Allah Azza wa Jal a donné le choix à un de ses serviteurs. entre le fait de revenir vers lui et d'accepter ce qu'il lui a préparé et le fait de rester fi dunya. Jusqu'à la fin du hadith, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens du livre avaient pris les cimetières de leurs prophètes et de leurs personnes pieuses comme lieu d'adoration. Et il nous a mis en garde contre le fait de copier cela. Et tu trouves au jour d'aujourd'hui des gens qui minimisent la gravité d'adorer autre qu'Allah, la gravité d'innover auprès des cimetières, la gravité de faire des choses qui sont des causes pour tomber dans le polythéisme. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a puisé ses dernières forces, sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre en garde sa communauté contre ce grave péché exagéré à l'égard des personnes pieuses et de leurs tombeaux. Donc il ne convient pas de se rendre dans les cimetières pour faire des adorations, pour lire le Coran, pour demander aux saints, pour demander aux morts et ainsi de suite. Il y a la visite qui est légiférée. C'est pour se rappeler la mort, c'est pour invoquer pour les morts, en faveur d'eux. Et il y a les visites qui sont innovées. Celui qui visite le cimetière pour se rappeler la mort et pour invoquer pour les morts, c'est une bonne chose, c'est légitime. Mais celui qui s'y rend pour le culte des saints et pour demander aux saints, pour égorger pour les saints, tout cela fait partie du polythéisme qui fait sortir la personne de l'islam. فالقلوب تحيا بذكر الله لذا سمى الله عز وجل وحيه روحا تنبهوا لهذا بورك فيكم. Le prophète sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, ou plutôt ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la personne ne vit que par l'évocation d'Allah. Al-Sheikh nous dit que c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a appelé la révélation, c'est-à-dire le Coran, ruhan, une âme. On a appelé le Coran une âme dans le Coran. Pourquoi? Car avec le dhikr, l'évocation d'Allah, avec la lecture du Coran, avec la compréhension, la mise en pratique, la méditation du Coran, la personne trouvera la vie, même le mort. Même celui qui vit sur terre et qui est mort, telle la terre qui est morte, Allah Azza wa Jalla lui redonne la vie avec le Coran. Tout comme il redonne la vie à la terre en faisant tomber la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu sajibu lillahi wa lirrasul إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous redonnent la vie. Lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous redonnent la vie. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Dans surat al-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé une âme émanant de nous. C'est-à-dire le Coran. La révélation, avec la révélation, avec dhikrullah, il y a la vraie vie. Awa man kana mayta fa ahyayna. N'as-tu pas vu celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, et à qui nous avons assigné une lumière, c'est le Coran, c'est le Wahi, c'est la révélation. Subhanallah. Avec le Coran, avec la révélation, la personne vit. حَيَاتًا طَيِّبًا. Quant à celui qui s'éloigne de ce Coran, quant à celui qui s'éloigne de la révélation, هَذَا هُوَ الْمَيِّتْ حَقًا. Voici celui qui est mort. Voici celui qui est mort. Il est mort parce qu'il n'est pas occupé à ce pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a créé. Ne pense pas que celui qui est véritablement vivant est celui qui peut marcher et parler. Celui qui est véritablement vivant est celui qui fait ce pourquoi il a été créé. C'est celui qui fait ce pourquoi il a été créé. Et dans le dernier hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث عند أبي داود الإمام الألباني يقول حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى تيرة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة أي نقص وتبعة وحسرة. Le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui prend place en un lieu sans évoquer Allah le Très-Haut verra son acte lui procurer une déception auprès d'Allah le Très-Haut. Celui qui se couche sur un lit sans évoquer Allah le Très-Haut verra son acte lui procurer une déception auprès d'Allah. L'auteur dit ensuite, c'est-à-dire un manquement et un regret. C'est-à-dire un manquement et un regret. Il explique le mot « tira ». Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait d'être distrait de l'évocation d'Allah azza wa jalla et contre les assises dans lesquelles on n'évoque pas Allah tabaraka wa ta'ala. On ne nous appelle pas à la reconnaissance devant les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-majalis takhtalif. Majalisul khayr ou majalisul shar. Il y a les assises de bien, comme il y a les bonnes fréquentations. Il y a les assises de mal, tout comme il y a les mauvaises fréquentations. Les meilleures assises sont les assises dans lesquelles on y évoque Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Damarartum bi riyadil janna farta'u. Qila ma riyadil janna, qala majalisul dhikr, hilaqul dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque vous passez près des jardins du paradis, prenez-y place. Il fut questionné à leur sujet, il a dit: ce sont les assises de rappel. Ce sont les assises de rappel. La personne qui ne fréquente pas les bonnes assises, mais au contraire assise aux assises de où il y a la distraction, la perversion, le mal, le péché, aura de la déception, des regrets dans ce bas monde, mais aussi au Al-Qiyam, mais aussi le jour de la résurrection. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la position assise, de la position allongée. Dans cela, on attire notre attention sur le fait que le serviteur d'Allah azza wa jalla, à qui Allah a voulu le bien, le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala qui cherche le bien, yadhkurullah ala kulli ahwalihi kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu akhbaratna bi dhalika Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullah ala jami'i ahyanihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah dans tous ses états. Dans tous ces états. Wa fi al-Qur'an alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal fait les éloges de serviteurs pieux, ceux qui ont tiré profit de ces signes, ceux qui ont les raisons les plus saines, ceux qui ont su profiter de la création il nous informe que ces gens-là ont pour caractéristique d'évoquer Allah Azza wa Jal dans toute position, dans toute situation. Assis, allongé, ou plutôt debout, assis et allongé sur leur front. Et c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَنَا فِيهِ أُسْوَةً حَسَنًا. Et on a en lui un bel exemple et parfait d'exemple à suivre. Il y a donc un grand danger à assister aux mauvaises assises. Il y a donc un grand danger à assister aux mauvaises assises que Shaytan embête. Les assises où il y a la perte de temps. C'est le minimum qui s'y passe. Sinon, il y a les péchés, il y a la calomnie, il y a la médisance, il y a le mensonge et toutes sortes de péchés. Et les gens, malheureusement, ne se lassent pas de ces assises. Car la langue ne se fatigue pas. Et la langue a été créée pour parler. Soit tu l'utilises dans le bien, soit tu l'utilises dans le mal. Et si tu ne l'occupes pas par le bien, tu l'occuperas par le mal. Comme a expliqué Al-Sharih, Hafidhahullah Ta'ala. Et l'assise s'embellit, pas par l'endroit seulement, mais par les acteurs de cette assise. Donc choisis tes conseillers, choisis tes fréquentations, choisis tes amis, car ce sont eux qui vont peupler ton assise. Et s'ils sont bien, ton assise sera noble. Et s'ils sont mauvais, ton assise t'amènera déception et regret dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wal'iyadu billah. Donc ces assises amènent le mal. Les assises dans lesquelles on n'évoque pas Allah Azza wa Jal amènent le mal. Ash-shaytan enjolive aux gens les mauvaises assises. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient « Je fréquente peu de personnes. » Car cela amène à la médisance, à la mauvaise parole ou à me taire sur la mauvaise parole. Soit les gens vont parler en mal et je vais entrer avec eux dans ce mal, soit je vais me taire sur un mal. Et ça, c'est la plupart des assises. C'est la plupart des assises. Rares sont ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla dans ses assises et sont courageux pour rétablir la justice dans l'assise. Naam. C'est ce qui a amené les pieux prédécesseurs à ne pas prendre beaucoup de fréquentation. Ici, lorsqu'on nous cite le fait d'être assis, le fait d'être allongé, il y a dans cela une subtilité. Al-Sharih, c'est-à-dire celui qui a expliqué le livre, c'est donc Abdul Razzaq Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, à chaque fois que je dis Al-Sharih, c'est-à-dire celui qui explique le livre. Donc, le savant de Médine de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr, Hafidhahullah Tabaraka wa Ta'ala. Parmi ce qui aide le serviteur, parmi les choses qui aident le serviteur à souvent évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala et faire cela dans tous ses états, c'est le fait de se rappeler le bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire, tu marchais, Allah Azza wa Jalla t'a donné ses jambes. Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de te déplacer du point A au point B pour obtenir, pour prendre une chose qui t'apporte un bien. Fatadkurullah. En te rappelant cela, tu vas évoquer Allah Azza wa Jalla. Puis tu es fatigué. Na'am. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir et te reposer. هذا يذكرك بنعمة الله. Voici un autre bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te montrer reconnaissant. Comment? Tazkurullah. Tu évoques Allah Azza wa Jal. Arrivé le soir, tu es épuisé. Tu veux reposer ton corps. Tu vas t'allonger. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Tu t'en rappelles. Fatazkurullah. Donc tu auras évoqué Allah Azza wa Jal cette journée en marchant, en position assise et allongée. Tu entreras ainsi dans beaucoup de hadiths et tu amasseras d'énormes richesses et mérites de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala العليم الجواد الكريم, celui qui sait tout et celui qui est riche et donne avec largesse. Puis, après cette nuit, qui est un des grands signes d'Allah Azza wa Jal, le sommeil, c'est un signe d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et c'est un grand bienfait d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمِنْ آيَاتِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Allah Azza wa Jal, et parmi ces signes, votre sommeil. Non. Donc, la personne au réveil, la voilà ou la voici encore dans un autre bien. Subhanallah. تَتَقَلَّبْ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ وَمِنْ تِلْكِ إِلَىٰ ثَالِثَ وَمِنْ ثَالِثَ إِلَىٰ رَابِعَ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Puis, tu passes dans un autre bienfait, qui est le réveil. Tu te réveilles. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, car tu aurais pu mourir dans la nuit. Car c'est un nouveau jour dans lequel tu peux adorer Allah Azza wa Jal. Donc, ajouter à tes actions des bonnes actions. C'est un nouveau jour, donc tu peux te repentir pour tes péchés. C'est un nouveau jour, donc tu peux demander pardon à ceux que tu as opprimés. C'est un nouveau jour, donc tu peux apprendre une nouvelle science. C'est un nouveau jour, donc tu peux prendre une nouvelle subsistance. C'est un nouveau jour, donc tu peux prendre une nouvelle science. Tu peux connaître encore plus Allah, encore plus le prophète sallam. Tu peux te rapprocher encore plus de lui. Combien de bien? Alors au réveil, la première chose que tu fais, c'est quoi? Dhikrullah. Qu'est-ce que tu dis au réveil? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Donc tu loues Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Et cela, ce chapitre viendra plus tard, les invocations du matin et du soir, inshallah ta'ala. Donc, de méditer ces bienfaits, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir s'asseoir, se reposer, le fait de pouvoir dormir, le fait de pouvoir se réveiller, nous aide à évoquer Allah Azza wa Jal de manière... d'une manière abondante. Voici donc le chapitre du mérite de l'évocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala nous a cité les versets du Coran. Par la suite, il a cité 5 un hadith de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il entame ou il entre dans un nouveau chapitre. Fadlu tahmidi wa tahlili wa tasbih. Le mérite des louanges, de la proclamation de l'unicité d'Allah, et du fait d'exempter Allah. C'est-à-dire le mérite de dire Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa subhanallah. At-tahmid, c'est le fait de louer Allah. Donc de dire Alhamdulillah. At-tahlil, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Wa at-tasbih, at-tasbih, c'est le fait de dire Subhanallah. Dans ce chapitre, après avoir cité la généralité, l'auteur rahimahullah ta'ala ici va nous citer des mérites particuliers dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه إلا رجل عمل أكثر منه. Dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim selon Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit la ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah, wahdahu la sharika lah, seul, sans associer, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, à lui la royauté et la louange, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est parfaitement omnipotent, il est capable de toute chose. Celui qui dit ça 100 fois dans la journée, cela lui vaudra l'affranchissement de 10 esclaves. On lui inscrira 100 bonnes actions. On lui effacera 100 péchés. Et ce sera pour lui une protection contre le diable durant ce jour-là jusqu'au soir. Et nul ne viendra avec une meilleure œuvre que la sienne, sauf quelqu'un qui en aura fait davantage. Sauf quelqu'un qui en aura fait davantage. Vous avez ici comme traduction, sauf celui qui en aura dit davantage. J'ai traduit par sauf celui qui en aura fait davantage, suite à l'explication du shir. Car de son explication, on comprend, sauf celui qui aura en plus de cela fait plus d'autres, fait plus d'adoration. Naam. Allahu a'lam. إذن لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر فضل الذكر عموما من الكتاب والسنة شرع في فضل خاص عقده في بيان فضل كلمات هن خير الكلمات. Après que l'auteur ait parlé donc des mérites de l'évocation d'Allah Azza wa Jalla par le Coran et la Sunna, de manière générale, il nous cite ici un mérite particulier qui ont été cités pour des paroles particulières. Cette parole est donc La ilaha illallah wahdahu, ou plutôt Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Allahu Akbar viendra par la suite. Le premier hadith, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cela 100 fois, vous avez entendu ce qu'Allah Azza wa Jal lui accorde. Donc dans ce hadith, on voit le mérite de proclamer l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de le louer. La ilaha illallah hiya kalimatu tawhid, hiya kalimatu l'ikhlas, hiya shahadatu l'kubra. La ilaha illallah est la parole de l'unicité par excellence. C'est l'attestation la plus lourde. C'est la meilleure des paroles. C'est la chose pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les hommes, tout comme il a créé les djinns. C'est la sagesse pour laquelle il a créé les cieux et la terre. Ce pourquoi la balance sera posée le jour du jugement dernier. C'est pourquoi le paradis a été créé. C'est la récompense des adeptes de la ilaha illallah. Et c'est la sagesse pour laquelle l'enfer a été créé. C'est la punition de ceux qui auront contredit la ilaha illallah. C'est la sagesse pour laquelle tous les prophètes et messagers furent envoyés. Et l'ensemble des livres révélés. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. الله nous dit dans le Coran, et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler point de divinité en dehors de nous, adorez-nous donc, c'est-à-dire en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et si on cite le pluriel, ça n'est pas pour la multitude de divinités, mais en arabe, ça nous indique l'immensité de celui duquel nous parle. C'est l'Azam. Aussi, Allah nous dit, Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « N'adorez qu'Allah, éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. » La ilaha illallah est la sagesse donc de la création de toutes choses. « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Allah nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Le premier ordre du Coran nous appelle à cela. Le premier interdit du Coran nous met en garde contre le fait de contredire cette parole. « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum » فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَعْظَمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ فِي هَذَا وَسُدِّرَتْ بِهَذِي الْكَلِمَةِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ est la meilleure des paroles. C'est la sagesse de la création. C'est la parole la plus bénéfique, la plus profitable. Aussi, tu tireras profit de cette parole que si tu en as la connaissance et la compréhension. Ça ne suffit pas de prononcer cette parole et de la répéter. Il te faut la comprendre et agir selon le sens de cette parole. Donc, la ilaha illallah, la ruknan, al-nafi wal-ithbat, nafsun am. تنفي ماذا وإثبات خاص يثبت ماذا لا إله نفي إلا الله إثبات لا إله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله إلا الله إثبات العبودية الحقة لله وحده ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc quel est le sens de la ilaha illallah? Le sens de la ilaha illallah est nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Tout le monde doit comprendre cette parole. Tout le monde doit vivre selon cette parole. Tout le monde doit inviter autrui à cette parole. Tout le monde doit veiller à ne mourir que sur cette parole. Et s'éloigner de tout ce qui peut venir à l'encontre de cette parole. Quel est donc, chers frères, le sens de cette parole, la ilaha illallah? La ilaha illallah se compose de deux piliers. Soyez attentifs. Comprenez, notez et mémorisez. Wa billahi tawfiq. La ilaha illallah se compose de deux piliers. Le premier pilier est la négation. Le deuxième pilier est l'affirmation. La négation dans la ilaha illallah est dans la ilaha. La ilaha, c'est la partie négative. Illallah est la partie affirmative. La négation de quoi? Et l'affirmation de quoi? La négation est dans la ilaha. L'affirmation est dans illallah. Mais la négation de quoi? La négation qui est dans la ilaha est la négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Donc lorsque tu dis la ilaha, tu te désavoues, tu rejettes le droit à l'adoration pour toutes les créatures, pour tout autre que Allah. Après avoir renié le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, tu affirmes que le seul qui est digne d'être adoré, le seul qui mérite le droit à l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Certes, des créatures sont adorées en dehors d'Allah azza wa jal. Certains adorent les prophètes, d'autres les anges, d'autres les morts, d'autres les saints, d'autres les arbres, d'autres les pierres. Mais est-ce que ces choses méritent l'adoration avec Allah? Non. Allah nous dit ceci, est car Allah est la vérité. Et tout ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. Et Allah est le plus haut et le grand. Donc voici le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Tous les prophètes sont venus avec cette parole. Tous les prophètes ont invité à cette parole. Et c'est même la meilleure parole qui est prononcée à un prophète. La négation doit être générale et l'affirmation doit être particulière que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as donc l'obligation de comprendre ces termes. La première condition des conditions de la ilaha illallah est la science. Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. On t'ordonne d'avoir la science de cette parole. On t'ordonne d'avoir la science de cette parole. Dans un autre verset, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sauf ceux qui ont témoigné de cette vérité avec science, c'est-à-dire de la ilaha illallah. Et Uthman ibn Affan nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui meurt, ou pardon, celui qui a la science de la ilaha illallah, ou plutôt celui qui meurt en ayant la science de la ilaha illallah, entrera au paradis. Donc on conditionne la compréhension de cette parole. ولما كان مقام التوحيد بهذه الأهمية أكد النبي صلى الله عليه وسلم طرفي كلمة التوحيد بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له، قال وحده لا شريك له، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. كذا قال أهل العلم. لعل عبد الرحمن بن حسن حفيظ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Devant l'importance de cette parole et son caractère ô combien important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité la ilaha illallah, a appuyé les deux parties, chacune par un mot. Il a appuyé la ilaha et il a appuyé illallah. Donc il nous dit la ilaha illallah, wahdahu, seul. En disant seul, on a appuyé l'affirmation, le fait qu'Allah soit le seul digne d'être adoré. Puis il dit la sharikala, sans associer. Avec cette parole, on a appuyé la négation. On a appuyé la négation. Donc, ça ne suffit pas d'adorer Allah Azza wa Jal. Tu dois mécroire à tout ce qu'il y a en dehors de lui. Tu dois te désavouer du tarout. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Allah dit dans le Coran, celui qui croit en Allah, celui qui se désavoue du tarout et croit en Allah, ce sera accroché à l'anse la plus solide. Na'am. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. An ya'budullaha wa jatanibu at-taghut. Il faut absolument les deux parties, la négation et l'affirmation. Car la négation absolue, adam, ça amène le néant. Et l'affirmation absolue, la yamna' min al-ishrak, n'empêche pas le polythéisme. Il faut donc la négation avec l'affirmation pour concrétiser le tawhid, pour concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fafhamu hadha barakallahu fikum. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de citer la parole du tawhid. Dhakara kalimat al-tawhid thumma atba'aha bil barahim ad-dalla الدالة على هذه الكلمة، فذكر الكلمة ثم ذكر الأدلة على ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de citer cette parole la ilaha illallah. Il a fait suivre cette parole la ilaha illallah des preuves de cette parole. Il a cité les choses qui nous appellent à cette parole, qui renforcent cette parole dans nos cœurs et notre vie. Et tout cela appuie encore et toujours que le sens de la ilaha illallah est nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Non pas comme certaines personnes ont dit en s'égarant grandement dans cette question. Certaines personnes ont dit que le sens de la ilaha illallah était de dire la khaliqa illallah, il n'y a point de créateur si ce n'est Allah. Certains ont dit, ou certains disent, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc tout ce qui est adoré, c'est Allah. Celui qui adore Jésus a adoré Allah. Celui qui adore tout est Allah. Ou bien Allah est dans toutes choses. Et toutes sortes d'égarements, pire les uns que les autres. Non, le sens de la ilaha illallah, al-ilah wal-ma'bud. Al-ladhi ta'la'uh l'quloub. Wa taqsuduhu bil-ibadat. Al-ilah, c'est celui qui est adoré. Wallah, huwa al-ilah, wa huwa Allah, wa huwa al-ma'bud, al-haq, wa bi-haq. Allah est la seule divinité qui mérite d'être adorée. Allah est la seule divinité qui mérite d'être adorée. Parmi les choses qui nous prouvent que le sens de la ilaha illallah est cette parole, le sens de la langue arabe, mais aussi les textes du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit « Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakulun a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun » Allah nous dit dans le Coran lorsqu'on leur disait « La ilaha illallah » ils se gonflaient d'orgueil et disaient « Allons-nous délaisser toutes nos divinités pour un poète fou ?» Donc ils comprenaient que le fait de dire « La ilaha illallah » voulait dire se désavouer de l'adoration de toutes les fausses divinités. Et reconnaître que le seul qui mérite l'adoration est Allah. C'est pour ça qu'ils ont répondu à « La ilaha illallah, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou ?» Donc cela nous montre qu'ils comprenaient que les associateurs Kuffar Quraysh, qui étaient des Arabes de souche, comprenaient que « La ilaha illallah » signifiait « La ma'bouda bi haqqin illallah ». Aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à la ilaha illallah, ils ont répondu « Aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la shay'un ujab » Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une seule divinité? Voici là une chose bien étonnante. Donc ils comprenaient que la ilaha illallah était la parole du monothéisme. La parole du monothéisme qui renie le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, lui l'affirme exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. فهذه الكلم فهذا الحديث فيها كلمة التوحيد وفي نفس الوقت البراهين على التوحيد توحيد العلم بعد التوحيد العملي الطلبي الإرادي بعد ذلك ذكر التوحيد الإثبات والمعرفة وهذا الذي نجده في القرآن وهذا الذي نجده في القرآن مثلا rappelez-moi le verset à la fin de sourate at-tahrim الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله سبحانه وتعالى nous dit الله celui et celui qui a créé sept cieux et pareil pour les terres c'est-à-dire sept l'ordre se descend entre les deux afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent, capable de toutes choses, et qu'il a embrassé de toutes choses sa science. Ça, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans Ar-Rububiyya et dans ses noms et ses attributs. Il y a aussi l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, et c'est ce pourquoi on a envoyé tous les messagers et les prophètes. Et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie et dans les noms et les attributs sont des preuves pour l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Qui nous démontre qu'Allah Azza wa Jalla est le seul à mériter l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite parmi ces preuves. Premièrement, lahul mulk, à lui la royauté. فالله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد في ملكه ولا ينازعه أحد. Personne ne s'associe à Allah تبارك وتعالى dans la royauté. Personne ne peut lui disputer quoi que ce soit. Et celui qui sait qu'Allah سبحانه وتعالى à lui tout entier revient la royauté, comment est-ce qu'il pourra adorer autre que lui سبحانه وتعالى? Allah n'a pas d'égal dans cela. Personne ne possède avec Allah ou ne dispute à Allah ne serait-ce qu'une petite fourmi dans son royaume. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: "Ulid'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard." Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: "Dis à ceux qui invoquent en dehors d'Allah ou dis: invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah. Il ne possède pas, c'est-à-dire indépendamment d'Allah, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi. Ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi. Personne n'est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce pour une petite fourmi. Ou une chose pesant le poids d'une petite fourmi. Ni ils possèdent cela avec Allah tabaraka wa ta'ala, ni ils peuvent décider d'une chose pesant le poids d'une petite fourmi en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla est le seul souverain et c'est le seul maître et personne ne lui dispute quoi que ce soit dans son royaume.
لذا ترى الشخص يملك اليوم أملاكا عظيمة ثم غدا لا يملك منها شيئا فيفارق ملكه أو ملكه يفارقه إما بإتلاف إما بموت. الله عز وجل à lui la royauté tout entière appartient. Et pour cela que tu vois aujourd'hui une personne qui possède des millions et le lendemain elle ne possède plus rien. Le lendemain, elle ne possède plus rien. Ou tu vois une personne posséder de nombreuses richesses. Puis, soit il se sépare lui de sa richesse, soit sa richesse se sépare de lui. Par la mort ou autre. C'est pour cela que lorsque Harun Rashid, rahimahullah ta'ala, ce gouverneur pieux est décédé, il a dit: Ya man la yazulu mulku. Irham man qad zala mulkuh. Cet homme pieux a dit: ô toi, celui dont la royauté ne disparaît jamais, fais miséricorde à celui qui vient de perdre sa royauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira yawm al-qiyamah, comme cela est écrit en Coran: liman al-mulku al-yawm. Personne ne répondra, il répondra lui-même subhanahu wa ta'ala: lillahi al-wahid al-qahhar. Allah dira yawm al-qiyamah, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répondra. Il dira lui-même tabaraka wa ta'ala à Allah, l'unique, le dominateur suprême. L'unique, le dominateur suprême. فَمَنْ آمَنَ بِأَنَّ الْمَلِكَ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ إلى غيره تبارك وتعالى. Donc celui qui a reconnu qu'Allah était le seul souverain ou le seul maître, il ne lui est pas permis de se diriger vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. له الملك وله الحمد. الحمد إثبات الكمالات لله عز وجل مع محبة وتعظيم. فتعريف الحمد وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم كما قال العلامة ابن عثيمين. الحمد c'est le fait d'affirmer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de décrire Allah tabaraka wa ta'ala par les attributs de perfection. Et le fait de faire cela le cœur rempli d'amour et d'immensification. Donc tu parles d'Allah en citant ses attributs, en citant ses perfections, le cœur rempli d'amour et d'immensification.
والله يحمد لأمرين لكماله ولإحسانه. الله تبارك وتعالى on le loue pour deux choses. On le loue pour sa perfection, parce qu'il est parfait dans tous ses noms, dans tous ses attributs, dans toutes ses actions, car nul défaut ne saurait l'atteindre, ni même imperfection. Donc on le loue pour cela. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. On le loue aussi pour sa générosité, sa bonté et sa bienfaisance envers ses serviteurs. Pour sa bonté, sa générosité et sa bienfaisance envers ses serviteurs. En d'autres termes, pour ses bienfaits. On loue Allah subhanahu wa ta'ala pour tout cela. Alhamdulillah alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'il wa Ishaq. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous méditez le Coran, vous trouverez qu'il proclame sa louange et cite après une perfection dans ses noms ou ses attributs, ou un bienfait. Ou un bienfait. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est parfaitement capable de toute chose. Fa qudratuhu shamilah li kulli shay'in. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wa la fis sama. ومشيئته نافذة لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولقضائه. الله سبحانه وتعالى a la capacité totale, la force suprême. Nulle chose ne saurait le rendre incapable. Jalla wa ala. Et lorsqu'il veut une chose, personne ne peut l'empêcher. Il fait ce qu'il veut et personne ne peut disputer son commandement. Après avoir compris tout cela, comment est-ce qu'un serviteur pourrait adorer un autre qu'Allah Azza wa Jalla, alors qu'Allah est le seul propriétaire, le seul gérant, c'est le plus fort, celui qui décide de tout et celui qui gère tout, tabaraka wa ta'ala. C'est donc le seul qui mérite d'être adoré. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit 100 fois par jour, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mais est-ce qu'il a précisé le moment? Non. Donc quel que soit le moment de la journée, celui qui dit cela, dans sa journée il l'a dit 100 fois, il a la récompense. Il a la récompense, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi ou autre. Mais les savants ont dit que le mieux était de le dire le matin avec les invocations du matin après le Fajr. Pourquoi? Ils ont cité plusieurs sagesses. Premièrement, « Al-Musara'at ou Al-Mubadara il al-Khayrat » le fait de s'empresser à faire la bonne action. Et tu ne sais pas ce qu'il peut advenir de toi. Tu peux tomber malade, tu peux avoir un problème, un empêchement, tu peux être occupé, tomber malade et ainsi de suite. Deuxièmement, hatta tuhassil ma yatarattab ala qawli al-qawli bi hadhihi al-kalima min awwal an-nahar. Deuxièmement, une grande faïda, c'est qu'on t'apprend dans ce hadith que tu auras toutes ces récompenses et que tu seras préservé du shaytan. Ben, afin d'obtenir cela le plus tôt possible. Afin d'obtenir cela le plus tôt possible, la protection contre Ash-Shaytan. Quelle sera la récompense? Tu auras la récompense d'avoir affranchi des esclaves. Tu auras 100 hasanat. On va te donner 100 hasanat. Quelle sorte de hasanat? La hasanat de la ilaha illallah. Et Abu Dhar, lorsqu'il a répondu, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أَوَ مِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَيْهِ اللَّهِ قَالَ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ. Lorsque Abu Dhar a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que parmi les hasanats il y a le fait de dire la ilaha illallah? Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est plutôt la meilleure des hasanats. Donc tu auras 100 bonnes actions parmi les meilleures ou la meilleure des bonnes actions. On va t'enlever 100 péchés. Et tu seras protégé ce jour-ci du shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger du shaytan ce jour-là pour avoir proclamé la parole du tawhid et l'avoir fait suivre des preuves du tawhid. Est-ce que vous savez pourquoi, chers frères? Pourquoi est-ce qu'en disant cette parole vous êtes protégé toute votre journée du shaytan? لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْوَى عَلَى صَاحِبِ التَّوْحِيدِ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ لأن الشيطان لا يستطيع أن يقرب صاحب التوحيد وذكر الله. Car le shaytan n'arrive pas à rester près du tawhid. Car le shaytan n'arrive pas à rester où il y a dhikrullah. C'est pour cela qu'avec cette parole, Allah Azza wa Jal nous accorde cette grande récompense. Il nous a été légiféré de prononcer Ayatul Kursi lorsqu'on va dormir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui récite Ayatul Kursi avant de dormir, il ne cessera d'être sous la protection d'Allah jusqu'au matin. Et Ayatul Kursi commence par quelle parole? Allahu la ilaha illahu. Encore une fois. Et suivi de quelle chose? Barahin ou tawhid. Comme dans ce hadith. On nous cite par la suite les preuves du tawhid. Et pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et nul ne viendra avec une meilleure œuvre que la sienne, sauf quelqu'un qui en aura fait davantage. Donc, celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, sera celui qui aura la meilleure action du jour. Sauf celui qui aura fait plus d'adoration, comme la prière, comme les sadaqat, les autres portes d'adoration. C'est ainsi que tu pourras dépasser celui qui aura prononcé 100 fois cette parole. Walhamdulillah alladhi bihi tatimmu salihat. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.